Le phénomène d'interprétation des noms de divinités est bien connu, bien étudié dans le cadre des religions polythéistes de l'Antiquité. L'interprétation romana des divinités grecques en est l'exemple le plus connu, mais les mondes septentrionaux ne font pas exception. En particulier, quatre divinités ont fait l'objet de nombreux rapprochements, ne serait-ce que parce qu'elles apparaissent dans les noms des jours de la semaine. Il s'agit des dieux Tyr. Alors je vais utiliser les termes, le plus souvent les termes les plus courants en français, c'est-à-dire Tyr, Odin, Thor et Frigg. Et je vous donne ici diverses variantes attestées dans les textes ou non, en proto-germanique, en vieux haut-allemand, en vieil anglais et en norrois. Et ces quatre divinités ont donc été identifiées couramment, on le voit dans les noms des jours de la semaine en anglais, à Mars, Mercure, Jupiter et Vénus. Mais derrière ces identifications assez linéaires, il y a toute une histoire de tâtonnements et d'hésitations. La transformation des divinités, qui sont aussi des planètes, en divinités anglo-saxonnes ou scandinaves, ne s'est pas toujours faite de la même manière. Et c'est sur ces variations que je voudrais aujourd'hui revenir. Pour cela, il nous faudra d'abord faire un détour du côté de l'Antiquité classique et tardive, puis du 7e siècle, anglo-saxon et irlandais, avant d'en venir à l'Angleterre de l'an 1000, puis au Danemark et à l'Islande, entre la fin du 12e et le début du 13e siècle. Donc, commençons par le 1er siècle avant notre ère. Déjà, Jules César assimile les dieux gaulois à des dieux romains et affirme par exemple que les Gaulois vénèrent tout particulièrement Mercure, c'est-à-dire probablement le dieu Lug. Un demi-siècle plus tard, Tacite reprend presque mot à mot l'expression de César lorsqu'il écrit que les Germains, cette fois-ci, non pas les Gaulois, les Germains, entre tous les dieux, honorent particulièrement Mercure. La plupart des spécialistes assimilent ce Mercure germanique à Odin, et cette identification repose évidemment principalement sur celle qui est faite dans les noms des jours de la semaine. Car en réalité, il a été bien montré que les inscriptions antiques de la Gaule belgique et des Germanies ne fournissent aucune épiclèse ou autre forme d'assimilation permettant de faire ce rapprochement. Dans l'Antiquité, c'est une grande variété de divinités indigènes, gauloises ou d'outre-Rhin, qui sont assimilées à un assez petit nombre de dieux romains, en l'occurrence principalement Mars et Mercure sur le Rhin, mais aussi Hercule, Apollon ou Sylvain. C'est pourquoi les travaux les plus récents ont émis des doutes profonds sur l'idée traditionnellement avancée dans l'historiographie, selon laquelle les noms des jours de la semaine résulteraient d'une interprétation germanica effectuée sur le limès rhénan dès le IVe siècle, voire même pour certains travaux plus anciens dès le IIIe, c'est-à-dire avant que le christianisme ne s'impose et cherche à combattre la référence aux divinités païennes. Au contraire, il semble que les noms théophores germaniques des jours de la semaine ne sont connus qu'à partir du 7e siècle. L'équation entre Wodan d'une part et Mercure est attestée en réalité pour la première fois dans la Vita Columbani de Jonas de Bobbio et très peu de temps après dans les glossaires anglo-saxons qui cherchent à donner des équivalents vernaculaires aux termes latins et gréco-latins. On y trouve par exemple les rapprochements entre Mars et Tiu, entre Mercure et Woden, entre Jupiter et Thunor, mais aucune équivalence n'est proposée pour Saturne. Les noms théophores germaniques des jours de la semaine seraient donc une invention savante en milieu anglo-saxon. Le maintien du nom de Saturne dans Saturday, serait dû à l'absence d'interprétation pour ce dieu en milieu anglo-saxon. Ainsi, les noms des divinités ou planètes classiques ont été traités comme des mots latins, c'est-à-dire qu'ils ont été traduits en vieil anglais et par là dans d'autres langues germaniques. De la même manière qu'on avait traduit Solis Dies, le jour du soleil, par Sunnendai, et Lunae dies, jour de la lune, par Monandae, eh bien, on a traduit jour de Mercure par Wednesday, etc. Une telle traduction culturelle, qui résulte à la fois d'un jeu savant et d'un souci de tout traduire, y compris ce que nous appellerions des noms propres, n'est pas sans parallèle dans l'histoire de la langue vernaculaire vieille anglaise. Par exemple, dans la traduction-adaptation de la Consolation de la philosophie de Boèce, généralement attribuée au roi Alfred le Grand à la fin du IXe siècle, eh bien, on trouve une traduction du nom du héros romain Fabricius par celui du héros germanique Welland. Cette traduction peut évidemment étonner, car même si l'un comme l'autre sont des exemples de constance et de patience dans l'épreuve, leur histoire n'est absolument pas la même. Le rapprochement procède sans doute d'un jeu linguistique sur la racine faber de Fabricius. Welland est en effet un forgeron. La connaissance des dieux du paganisme classique a été transmise au monde anglo-saxon, puis scandinave, à travers quelques ouvrages classiques ou post-classiques. Parmi ces ouvrages, le De Diis Gentium d'Isidore de Séville a eu un rôle très important, mais c'est sur un autre texte que je voudrais m'attarder, le De Correctione Rusticorum de Martin de Braga, évêque galicien, donc du nord-ouest de l'Espagne actuelle, du VIe siècle. Braga est au Portugal, pardon. Braga est au Portugal. Oui, c'est la Galice, mais aujourd'hui c'est au Portugal. Ce traité, qui est en réalité un sermon, comprend en effet trois paragraphes qui se concentrent sur les divinités du paganisme romain et qui les dénoncent comme des hommes qui ont trompé leurs semblables. On est dans l'évémérisme. Le panel de divinités retenues est extrêmement étroit. Il s'agit, dans l'ordre d'apparition, des divinités que vous avez ici, Jupiter, Junon, Minerve, Vénus, Mars, Mercure, Saturne, Neptune et les lames, nymphes et dianes. Le lien avec les jours de Mercure, de Mars, Mercure, Jupiter, Vénus et Saturne est explicitement fait par le texte et la pratique onomastique pour les jours de la semaine fait l'objet d'une dénonciation. Or, ce texte a eu un très grand succès, enfin un succès réel, disons, dans le nord de l'Europe. Alors, la question est, le De Correctione Rusticorum a-t-il lui-même contribué au resserrement du panthéon germanique, je dis bien germanique, autour d'une poignée de divinités assimilées à des équivalents classiques? La question reste ouverte. On a l'impression que c'est cette évolution au milieu chrétien, en tout cas, qui a resserré l'éventail des divinités germaniques connues et qui a pu donner à certaines d'entre elles, au premier rang desquelles Odin, un rôle qui n'était peut-être pas aussi important auparavant dans le paganisme germanique et anglo-saxon, puis scandinave, réel. C'est en effet à la même époque que des auteurs chrétiens de généalogie royale, Bède par exemple, resserrent la diversité des ancêtres royaux et font systématiquement de Woden un ancêtre des dynasties régnantes des royaumes anglo-saxons. Ce qu'on observe en Angleterre et sur le continent européen au premier siècle médiévaux est donc bien une sorte de tri parmi les divinités germaniques païennes qui était sans doute beaucoup plus diverse que le tableau très étroit limité à une demi-douzaine de noms qui nous est fourni par les auteurs avant Snorri, disons, pour simplifier. Par conséquent, il n'est pas impossible qu'à l'époque viking, les promoteurs des cultes traditionnels en Scandinavie et dans la diaspora viking aient choisi de mettre précisément en avant les cultes de divinités dont le nom était pour ainsi dire sanctionné par la tradition écrite dans les pays latins, en particulier Odin et Thor, et peut-être aussi Freyr, dont le nom de la sœur Freya a pu aussi être assimilé à Vénus. À l'appui de cette idée, on peut citer les cas d'évitement des noms de dieux dans des contextes culturels spécifiques. Certains de ces cas s'expliquent assez facilement par la substitution d'un nom faisant explicitement référence au sacré chrétien, en particulier pour les noms des trois, de ce que nous appellerions aujourd'hui les trois derniers jours de la semaine, c'est-à-dire plutôt les deux derniers et le premier. Mais ici, il me semble qu'il ne s'agit pas tant d'éviter les noms des dieux, de dieux en particulier, que de christianiser les jours les plus marqués religieusement, des jours sanctifiés, que sont le vendredi, le samedi et le dimanche. Et vous avez toute une série d'exemples qui traduisent dimanche par jour du Seigneur, samedi par jour du sabbat, mais aussi veille du dimanche, vendredi par jour de la préparation, sous-entendu préparation du sabbat, ou jour du jeûne. D'autres exemples pourraient être cités à l'appui de ces transformations. Mais il est arrivé que les choses aillent beaucoup plus loin. Le choix linguistique fait en langue portugaise, la région de Martin de Braga, est le plus extrême. Les jours de la semaine, ils sont tout simplement numérotés. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Conformément aux instructions du De Correctione Rusticorum de Martin. Toute allusion à des divinités païennes est ainsi éliminée, évitée. Pourtant, cette attitude n'a abouti qu'en portugais, et elle est seulement partielle dans deux autres langues, le grec et le slavon, et on le verra en islandais, sur lequel je m'attarderai un peu plus longtemps. Une autre possibilité consiste au contraire à laisser les noms en latin, et donc à ne pas les traduire à la manière anglo-saxonne, de ne pas trouver d'équivalent dans la langue. Dans ce cas, l'effet sur le locuteur est plus ou moins neutralisé par le fait que les mots Mars, Mercurius ou Iovis, qui plus est entièrement défigurés par des transformations phonétiques, n'ont absolument aucun sens dans le nouvel univers linguistique et culturel et se réduisent à des signifiants arbitraires. C'est le choix qui a été fait de manière très consistante en gallois, où on a simplement traduit jour de Mars, jour de Mercure, jour de Jupiter, jour de Vénus, etc. Pas traduit, translittéré quasiment. Enfin, c'est pas de la traduction, c'est du... j'ai du mal à trouver un mot exact pour décrire ce phénomène. Et dans une moindre mesure, en irlandais, avec deux jours en particulier, le mardi et le samedi, pour Mars et Saturne, et le mercredi dans une forme archaïque qui, on le verra, a été abandonnée. Mais il existe aussi, on le sait, des stratégies d'évitement plus ciblées, qui ne se sont attaquées qu'au nom de certains dieux, et qui ont laissé tranquilles en particulier les astres, non assimilés à des divinités, comme le soleil, la lune et, dans une moindre mesure, Saturne, qui, je le rappelle, n'était pas muni d'une interprétation germanica. Dans ce cas, c'est bien les divinités Tyr, Odin, Thor et Frigg qu'on a cherché à éviter, sans doute parce que leur nom était perçu comme porteur d'une sacralité encore active et donc dangereuse. Pensons par exemple, parmi tous les exemples que je donne ici, au terme Mittwoch, milieu de semaine en allemand moderne, attesté dès le vieux haut allemand et sans doute calqué sur un usage courant dans l'Italie du Nord à la fin de l'Antiquité. Il semble donc que dans cette région, qui, rappelons-le, est celle où Jonas de Bobbio raconte que Colomban avait rencontré pour la première fois des gens qui assimilaient Mercure et Votan, eh bien, dans cette région, la sensibilité à ces potentielles survivances païennes semble avoir été plus forte qu'en Angleterre ou plus tard en Scandinavie. L'Islande est un exemple très intéressant. Cette île a connu des phénomènes composites d'hypercorrection chrétienne, puisque les noms théophores, connus en norrois d'ailleurs, bien attestés au XIIe, XIIIe siècle, et qui ont donné les noms des jours de la semaine dans les langues scandinaves continentales, eh bien, les noms, d'ailleurs c'est le cas encore aujourd'hui pour le dimanche et le lundi, qui ont des noms d'astres, on a repris l'usage anglo-saxon, via Hambourg-Brême ou non, ce serait un long... C'est, à mon avis, assez difficile à trancher. En tout cas, les autres jours des noms de la semaine, les autres noms des jours de la semaine, pardon, ont été remplacés par des formes neutres. Alors, il y a d'abord eu, pour le mardi et le jeudi, un usage qu'on pourrait appeler portugais ou monastique, avec des numérotations, sans doute pas venu du Portugal, évidemment, mais est-ce que ce serait venu du grec? Il y a des choses comparables en grec. En tout cas, c'est un usage qui est courant dans les monastères occidentaux, donc il n'y a pas nécessairement besoin d'aller chercher une influence orientale. Il y a eu aussi un phénomène pour le mercredi qui ressemble au Mittwoch allemand, hein, jour du milieu de semaine, qui est aussi attesté en slavon. Cette pratique est attestée en slavon. Donc, est-ce que c'est venu du sud de l'Allemagne, est-ce que c'est venu du monde slave, ou est-ce que c'est venu autrement? Là encore, je ne peux pas répondre, mais vous voyez, il y a une sorte de millefeuille qui est très, très bizarre, très, très intéressant en tout cas. Le samedi, c'est un nom très bizarre. Alors, c'est une origine. On lit en général que ce mot fait référence au fait que l'on prenait un bain la veille du dimanche. Mais cette pratique ne semble pas attestée par des sources médiévales ou ethnographiques. En revanche, très intéressant, le nom du vendredi, jour du jeûne, pourrait refléter des contacts privilégiés avec l'Irlande. L'usage irlandais pour les noms du mercredi, du jeudi et du vendredi s'était rapidement cristallisé autour de références monastiques aux principaux jeûnes hebdomadaires. Hein. Le mercredi était appelé premier jeûne, le jeudi entre les jeûnes et le vendredi dernier jeûne. On voit là la complexité de ces transmissions. Les noms des dieux païens peuvent servir à traduire des mots latins, mais ils peuvent aussi être perçus comme suffisamment chargés de sacralité pour qu'on cherche à les éviter. Les anglo-saxons ont choisi la voie de l'interprétation, de la traduction culturelle. Ils ont transmis cet usage aux saxons continentaux. Et directement ou via le bas allemand de la région de Hambourg, aux Scandinaves. Les Gallois et dans une certaine mesure les Irlandais ont choisi au contraire de conserver les noms en latin, ce qui leur ôtait leur dangerosité potentielle, puisque ces mots ne faisaient référence à aucune réalité vécue par les populations. Enfin, les Allemands du Sud, les Irlandais et dans une certaine mesure les Islandais ont cherché à éviter certains noms théophores, en mettant en œuvre des stratégies diverses. Les Allemands du Sud semblent avoir puisé à des pratiques orientales et ou alpines variées. Les Irlandais ont opté pour un repli sur des usages monastiques et les Islandais ont fait appel à un feuilletage d'origines diverses. Dans tous les cas, une liste originale s'est mise en place, ce qui fait qu'au bout du compte, pas une langue n'a une semaine parfaitement semblable à une autre. La réception de la liste latine des planètes et divinités témoigne de la grande variété des stratégies d'adaptation, d'appropriation d'une norme d'origine païenne, mais toujours filtrée par le christianisme au sein des sociétés converties. Alors, dans la deuxième moitié de ce papier, je voudrais aller un peu plus loin en remarquant que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les différentes formes des noms des divinités germaniques ne sont pas interchangeables. En d'autres termes, bien qu'il s'agisse dans tous les cas du dieu que nous, en français aujourd'hui, nous appelons Odin, Woden n'est pas toujours exactement superposable à Wotan ou à Odin. Alors je prendrai pour cela quelques exemples dans le monde anglo-saxon, autour de l'an 1000, à une époque où précisément les anglo-saxons étaient confrontés à la présence scandinave. La tradition issue du De Correctione Rusticorum de Martin Braga est attestée dans l'Angleterre des environs de l'an 1000, où elle a fait l'objet d'une traduction. Cette traduction a été intégrée à une homélie d'Alfrich, puis à une homélie de Wulfstan d'York. Homélie toutes deux intitulé « De falsis diis », la seconde, celle de Wulfstan, étant une adaptation de la première. Ces deux clercs anglo-saxons proposent une adaptation assez fidèle du propos de Martin, puisqu'ils adoptent une position évémériste critique. Les dieux païens sont des hommes, et des hommes mauvais. À la suite de Martin, Alfrich et Wulfstan représentent les dieux et les déesses comme des personnages historiques sans morale. Jowis est un incestueux assassin, il a épousé sa sœur Juno et il a pris le pouvoir en exilant son père Saturnus. Mercurius, par exemple, est un trompeur et un faussaire. Vénus est une femme qui se livre à la luxure et à l'inceste avec son frère Mars, etc. Alfrich, qui a adapté en anglais l'original latin, a en outre, et c'est ce qui nous intéresse ici, émaillé sa traduction de brefs commentaires dans lesquels il s'est livré à une interprétatio du texte de Martin en traduisant, à l'usage de ses lecteurs anglo-saxons, les noms des dieux, c'est-à-dire en fournissant des équivalences pour les noms de deux dieux, enfin trois chez Alfred et deux chez Wulfstan, en l'occurrence Jupiter, Mercure et Vénus. Or, ce ne sont pas les noms anglo-saxons Woden et Thunor que Alfred et Wulfstan ont privilégiés, mais des formes spécifiquement scandinaves. Ozon et Thor dans les graphies retenues dans les manuscrits qui nous sont parvenus. Or, Alfred et Wulfstan à sa suite précisent d'une part que c'est ainsi qu'ils appellent ils, c'est-à-dire pas nous, les anglo-saxons, mais eux, les Danois, hein, Danisha, Leoda, Danishemen, ils les appellent ainsi on Danishe Wisan, à la manière danoise. Ce qui désigne bien sûr l'ensemble des Scandinaves. Danois, dans l'usage anglo-saxon, évidemment, c'est tous les Scandinaves. En choisissant de ne pas donner leur nom anglo-saxon, Alfred opère un triple effet de mise à distance. En premier lieu, il ménage son auditoire, en évitant de lui rappeler ses propres origines païennes et sa grande proximité culturelle et linguistique avec l'adversaire viking. Ça, c'est quelque chose qui a bien été remarqué par Matthew Townend. Ensuite, ces humains criminels, les dieux, sont présentés comme les mauvais dieux des Scandinaves, ennemis des Anglo-Saxons. Là, je renvoie aux travaux de Judith Jesch. Enfin, en s'abstenant d'utiliser le nom anglo-saxon de Woden, Alfred épargne l'ancêtre de la dynastie royale, qu'il évite ainsi de présenter comme un parricide incestueux. De fait, les grands laïcs qui patronnaient Alfred, l'Elderman Æthelwerd et son fils Æthelmer, étaient eux-mêmes des membres de la dynastie royale West-Saxonne et donc des descendants directs de Woden. Et insulter Woden, et non pas Ozon, aurait probablement été mal perçu par ceux pour qui Alfred écrivait. De fait, ce même Elderman Æthelwerd, patron d'Alfred, est lui-même l'auteur d'un chronicon écrit en latin à peu près à la même époque, un petit peu avant, dans lequel il développe les mentions de la chronique anglo-saxonne. Et on trouve sous sa plume une brève opinion à deux reprises sur l'origine et le développement du culte d'Odin, un personnage qu'il regardait, donc, rappelons-le, comme son propre ancêtre. Ces deux passages interviennent au moment où le chroniqueur Æthelwerd relate l'arrivée dans l'île des premiers Saxons conduits par Hengest et Horsa. Et vous voyez ici qu'à la différence de son protégé, Alfred, Æthelwerd s'abstient de critiquer Odin. C'est la faiblesse de la nature humaine qui explique pourquoi les hommes ont vénéré cet homme qui est Odin. L'illusion aussi dont ces hommes sont victimes. Odin, au contraire, est un roi des barbares, un ancêtre, qui est lui-même innocent de toute action qui puisse pousser les hommes à le vénérer. Mais là encore, un regard détaillé sur les graphies utilisées peut s'avérer instructif. Et là, je reprends quelque chose qui a été déjà noté par Robert Ricks. Æthelwerd s'est livré à une scandinavisation des noms de ses propres ancêtres dynastiques, assez comparable à celle que son protégé Alfred a menée dans le De Falsis Diis. Ainsi, Odin est appelé Wothen, avec un th, dont la sonorité fricative évoque le Othin, norrois. Ce recours à des graphies évoquant la prononciation norroise n'a pas pour but, ici, comme chez Alfred, de délégitimer ces divinités, ou de protéger les ancêtres païens de la dynastie. Il pourrait plutôt s'agir, en soulignant la nordicité, la scandinavité des ancêtres des rois anglo-saxons et de leur parenté, il pourrait s'agir de puiser à la source de prestige que représentaient, depuis l'Antiquité tardive au moins, les origines septentrionales, porteuses de connotations comme la force, la virilité et les vertus martiales. Cela nous ramène à la question du maintien du nom d'Odin dans les listes des jours de la semaine en vieil anglais et dans toutes les langues où cette pratique est visiblement dérivée de l'usage anglo-saxon, en néerlandais ou dans les langues scandinaves continentales. Extirpé en Islande et dans le sud du monde germanique, Odin semble bien avoir été ménagé en Angleterre. A-t-il échappé à la censure en raison de son statut d'ancêtre royal ? La question, évidemment, reste ouverte. Mais Mercure lui-même, est-il toujours Odin ? Pour Helfrich, les dieux des Scandinaves sont bien les mêmes individus que les Olympiens. Les noms latins apparaissent à côté des noms germaniques et ils en sont la traduction. Il explique que Mercure est appelé Odin, on Danish Wesen, à la manière danoise. Malgré cela, Helfrich est le premier à avoir relevé une incohérence généalogique, montrant d'ailleurs au passage que les dieux scandinaves, bien avant l'Edda en prose de Snorri, étaient bien considérés comme reliés par des relations de parenté. Voilà ce que dit Helfrich. Certains Danois disent que Jovis serait le fils de Mercurius, mais ils n'ont pas raison, car dans les livres, il y a quelque chose d'autre qui est écrit. Jovis est en réalité le fils de Saturne. L'incohérence repérée par Helfrich ne lui sert pas à remettre en cause l'identification bien établie, connue par les livres, entre Mercure et Odin d'une part, Jupiter et Thor de l'autre. C'est une occasion pour lui encore de dénigrer les Danois, dont le savoir en matière mythologique est pris en flagrant délit de contradiction avec ce que disent les livres, qu'ils soient païens, c'est-à-dire Virgile, etc., ou chrétiens, Isidore, Martin de Braga et d'autres. Cette erreur n'est pas une simple confusion sans importance. Pour Helfrich, c'est un « jedwild », un terme qui est couramment utilisé pour désigner l'hérésie. Il y a une certaine saveur, je trouve, à constater que pour un auteur chrétien des environs de l'an 1000, l'erreur des Scandinaves en termes de généalogie des dieux païens relève du champ de l'hérésie, de l'erreur religieuse. Le « De falsis diis », et donc en dernier ressort le traité de Martin de Braga, est probablement aussi une des sources du prologue de l'Edda de Snorri Sturluson. De fait, il existe une adaptation norroise de ce sermon dans le recueil Hauksbok. Or, cette traduction ne contient pas le passage crucial dans lequel Helfrich mettait en doute la fiabilité des informations des Danois sur l'histoire et l'identité de ces individus. Est-ce parce que la source de cette traduction avait déjà omis ce passage, dont on sait qu'il n'est pas présent dans tous les manuscrits d'Helfrich? Ce n'est pas impossible. Mais il se peut aussi que l'auteur scandinave ait souhaité expurger le texte d'une notation défavorable aux Danois. Le prologue de l'Edda de Snorri résulte donc d'une tradition avant tout savante qui est une conséquence de la christianisation des pays scandinaves. Toutefois, là où Martin et Helfrich insistaient sur le rôle du démon dans l'égarement des hommes, Snorri fait des ases un portrait élogieux. Odin, en particulier, apparaît comme un personnage positif. Et Snorri s'éloigne de Martin en cela qu'il offre à son lecteur une grande variété de divinités, là où l'évêque de Braga réduisait au contraire le panthéon à une poignée de noms. Surtout, malgré son utilisation du Decorrectione Rusticorum, ou de son adaptation par Helfrich, Snorri prend ses distances avec l'identification habituelle entre les divinités gréco-romaines et les divinités nordiques. En effet, à aucun moment, au sein de sa grille évémériste, il n'écrit que les As ou les Vannes seraient les mêmes personnes que les Olympiens. Pour lui, les Danois ne se sont pas trompés. Implicitement, Thor, Odin et les autres semblent être des gens différents de Jupiter, Mercure et les autres. Saxo Grammaticus est celui qui est allé le plus loin dans cette direction. Tout comme Alfrich, il relève l'incohérence entre les liens de parenté des dieux scandinaves et ceux qui existent entre les dieux gréco-romains. Mais comme vous le voyez ici, à la différence d'Alfrich, il n'en déduit pas que les Danois se sont trompés. Au contraire, il en déduit qu'il convient de rejeter l'identification entre le trio Mars, Mercure, Jupiter et le trio Tyr, Odin, Thor. Pour Saxo, en dépit de l'usage bien établi concernant les noms des jours de la semaine, il convenait de renoncer à l'assimilation entre ces individus, qui à ses yeux étaient des êtres humains non pas fautifs, mais des êtres humains glorieux des temps passés, qui étaient à l'origine de ces noms. Le même argument généalogique, donc, qui relève d'une forme de critique par comparaison, a pu être utilisé à deux siècles de distance à des fins diamétralement opposées. D'une part, l'anglo-saxon Alfrich utilise cet argument pour dénigrer les Danois, les Scandinaves, et souligner leur hérésie, ou du moins la piètre qualité de leur savoir mythologique. D'autre part, le Danois Saxo, aux environs de 1200, le met à profit, ce même argument, pour montrer l'indépendance et même la supériorité de la tradition historique et mythologique du Nord sur celle des anciens Grecs et Romains. Je vous remercie de votre attention.